présenté Patrice Cuinet. Il sera discuté par Aïdé Popper, membre enseignant de notre société de thérapie familiale psychanalytique. À toi.
Bien, alors donc on m'a demandé de parler du corps familial. Je vous dirai rapidement, mais je ne sais pas si je tiendrai tout le festin ou le menu que je vous avais préparé, qui voulait parler un petit peu de la corporéité, de sa transmission, du stade du miroir familial, ainsi que la fonctionnalité de l'image du corps familial, avec deux outils intéressants cliniques à construire au niveau groupal, qui est donc l'arbre généalogique et le dessin de la maison familiale. Donc, je vais essayer de tenir le temps imparti, quitte à faire des coupes par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, la place du corporel dans le groupe familial est tellement omniprésente qu'il est même difficile d'y réfléchir. Vous savez que comme tout ce qui va de soi, eh bien, la pensée a tendance à glisser dessus, à glisser sur un ressenti, d'un vécu intuitif, que nous sommes tous en fait de la même pâte humaine, comme disait Paul-Claude Racamier. Mais surtout qu'on a un sentiment de connu, de familier, qui tisse entre les membres d'une famille des liens psychiques inaliénables que nous pouvons aussi appeler tout simplement les liens de sang. Ces liens de sang s'appuient sur cette certitude imaginaire que les individus d'une même famille partagent le même corps biologique originel. Le soma se pose comme une base primordiale et intangible de la construction identitaire d'un groupe familial. Comme l'illustre la simple expression que vous avez déjà pu entendre, il a un air de famille. La reconnaissance des liens s'appuie sur le corps apparent par certains détails physiques partagés avec les autres de la famille. Cela fonde une croyance basée sur une pulsion scopique qui met en valeur l'image spéculaire comme référence fondatrice de l'imago d'un grand corps commun fédérateur des singularités de ceux de la famille. Nous verrons qu'une dissonance entre l'apparence du sujet et celle du groupe familial peut être source de problèmes, d'attachement ou de reconnaissance. Nous nous interrogerons aussi sur quelles modalités le corps familial peut se transmettre et quels en sont les effets positifs ou négatifs sur le sujet. Comment, dans notre pratique clinique, on peut approcher cette notion de corps familial et d'évaluer sa participation à la souffrance des familles. Dans un premier temps, je voudrais aborder la notion de corporéité familiale. Ce que j'aime à présenter, de façon métaphorique bien sûr, comme la mise en corps de la psyché familiale, quand je dis mise en corps, je pense aussi mise en bière de l'individu. Tout d'abord, le corps familial se différencie du corps dans la famille, du fait qu'il dépasse l'objet réel du soma de chaque individu. Il nous faut accepter l'idée que la notion même de corps est déjà une représentation psychique du ressenti somatique. Ce dernier, le somatique, est à mettre dans le registre du réel et donc de l'impensable. Par contre, la corporéité en serait la forme psychéisée, constamment en construction dans les relations intersubjectives à l'autre, c'est-à-dire avec sa famille et tous les autres groupes. Pour reprendre un postulat de René Caes qui pose l'existence d'une pulsion originaire de complétude, nous pensons que le bébé à la naissance perd ses repères qu'il avait construits dans sa vie in utero, ce que nous nommons comme un temps de décomposition, tenancement ou une sorte de décorporation. Cette décorporation pousse la psyché de l'enfant à la recherche d'un nouveau contenant à l'extérieur dans la réalité. Grâce à la relation maternelle de soins et de corps à corps, la pulsion de complétude va trouver le corps vivant de la mère sous la forme du holding et du handling bien décrit par Winnicott. Cette pulsion de complétude qui est à la recherche du corporel permet de comprendre la psyché de l'enfant comme une tension qui cherche à s'ancrer sur tout objet extérieur qui aura la qualité d'être bien défini et contenant. Et grâce à ces qualités, l'objet alors devient attractif pour l'émergence des premières représentations nidifiantes de la psyché. Il en va ainsi pour le corps maternel, puis pour tout autre substitut qui offriront un réceptacle suffisamment défini pour accueillir la corporéité. Les individus, puis les groupes, restent, je dirais, dans une nostalgie de corps perdu qu'ils ont constamment à réinventer, soit dans la famille, soit avec la société. Ainsi, la psyché retrouvera l'imago du corps maternel dans des objets extérieurs, tels que certains meubles très contenants, par exemple des grosses armoires à linge, ou encore, bien sûr, la maison, on parle effectivement de corps de bâtiment. Mais aussi, dans certaines situations groupales qu'on vient aussi de, ce matin d'évoquer, des situations groupales, je dirais, enveloppantes, favorisant les processus d'incorporation, tels que les cérémonies solennelles ou les festins familiaux. Ainsi, les sensations corporelles prennent valeur de signifiant puisqu'elles sont déjà interprétées par l'appareil psychique de la mère, mais aussi dans le contexte culturel du groupe. Ce qui accueille le soma de l'enfant, c'est déjà le discours historique du groupe familial qui, selon l'idéologie dominante, proposera d'abord, à mon avis, une affiliation du corps de l'enfant pour ensuite, si tout se passe bien, j'en parlerai un peu plus tard, une filiation avec reconnaissance de son bon droit d'avoir une place au sein de cette famille-là. J'insiste sur les expressions métaphoriques qui sont souvent utilisées dans les phénomènes de groupe, telles que prendre corps, faire corps, l'esprit de corps. Toutes ces expressions illustrent les états de ressenti d'être unis ensemble dans un fantasme de grand corps commun, que paradoxalement la multitude réagit comme un seul homme. Nous pouvons repérer ce fantasme quand le groupe prend conscience de lui-même dans sa phase d'illusion groupale, ce qui génère une idéologie totalisante qui peut même devenir totalitaire. La famille y a recours face aux dangers extérieurs lorsqu'elle fait fi de ses dissensions internes pour se souder contre l'attaquant ou contre l'étranger. Cela se retrouve aussi dans la belle formule d'Alexandre Dumas, de Dumas chez les mousquetaires, « Un pour tous, tous pour un ». Les prémices de la formation du corps familial en tant que représentation contenante et délimitante se feraient à l'apparition d'un moi-peau qui recouvre le noyau syncrétique de la cellule familiale pour lui donner un lieu dans l'espace, afin que les projections psychiques d'origine extraterritoriale à chaque sujet puissent venir s'y déposer et s'y inscrire sous la forme de traces pictographique, et là je fais référence à Pierre Aulagnier. Ces éléments sont nécessaires aux proto-pensées d'une psyché originaire du groupe familial, car c'est le bombardement psychique, c'est-à-dire les éprouvés sensoriels, venus des psychés singulières, mais aussi de la psyché familiale comprise comme création de l'interfantasmatisation, qui va rendre le corporel vivant. J'entends le sens de vivant comme l'entendait Françoise Dolto lorsqu'elle parlait de la vivance du somatique, c'est-à-dire d'exprimer une subjectivation par le biais d'états émotionnels, de réactions comportementales ou de conduites sous-tendues par un désir inconscient. C'est parce que les éprouvés corporels sont ressentis par les autres en écho, en résonance mimétique, qu'il y aura par contagion psychique, et là je me fais référence à Paul Schilder, sur la contagion psychique des images du corps, des états d'être au monde semblables. Chaque bébé reçoit un héritage projectif originaire, sorte de fond inconscient d'ordre familial déposé en lui. De cette toile de fond ressortira une première esquisse de représentation corporelle du soi, qui est donc de nature groupale, pour plus tard permettre qu'un moi corporel spécifique à l'individu puisse advenir. La façon dont ce dernier vivra son corps sera déterminée d'abord par le vécu des autres qui induisent une manière d'être touché, une façon d'être regardé qui sera spécifique à cette famille. Certaines parties corporelles seront privilégiées ou interdites selon la croyance de la mythologie familiale, mais aussi de sa culture sociale. Ainsi, le corps individuel se structure sur l'image inconsciente du corps familial déjà là. Bien sûr, les expériences personnelles vont aussi façonner le vécu corporel pour chaque sujet, lui donnant ainsi une cartographie fantasmatique originale de son corps érogène. Car il n'est pas possible de parler du corps sans parler d'érogénéité. Nous voulons souligner la fonction de liaison de la pulsion entre le corps et la psyché. Je vous rappelle l'expression de Freud, les pulsions sont des êtres mythiques, mi-somatiques, mi-psychiques. Il insiste dans 3 essais sur la théorie de la sexualité pour signaler que le moi est corporel, il est la projection d'une surface corporelle. Ainsi, la notion d'image inconsciente du corps se construit par étayage sur la pulsion qui se satisfait par les fonctions corporelles d'une part, mais sur aussi les zones érogènes impliquées dans les relations intersubjectives d'autre part. Le processus d'étayage suggère la prise d'appui sur la pulsion d'autoconservation qui lutte contre la fragmentation ou la décomposition de l'unité corporelle. Mais il faut souligner la dimension dynamique du terme anaclitique lié à l'étayage et qui pousse le sujet vers un agrippement de l'objet afin d'effectuer un collage primaire à son pourtour. Et je pense que ça, c'est un élément important de penser que le premier mouvement, c'est plutôt un collage sur le pourtour de l'objet. C'est ce que Esther Bick appellera l'identification adhésive ou l'identité adhésive en partant des travaux de Melzer. Celle-ci, par la suite, cette identification, permettra d'élaborer d'autres identifications projectives, introjectives, afin de faire du lien psychique là où n'existait que du morcellement et de la chute sans fin. Si j'ai insisté sur la fonction d'étayage pulsionnel liée au corporel, c'est pour montrer à quel point la présence du corps est un socle inconscient vital pour la construction d'une représentation psychique du moi familial en tant que groupe. En effet, le groupal, c'est la multiplicité. C'est la représentation impensable d'une angoisse de rupture, de dissociation et d'éparpillement. D'où l'urgence vitale de se donner une forme unitaire. Faire corps en s'unifiant dans le couple et faire du corps en produisant des enfants dans la famille. Nous pouvons donc comprendre pourquoi le bébé devient un objet narcissique pour les parents, mais aussi pour les familles. Pourquoi toutes les familles tiennent tant à se rassembler et à rassembler tous leurs membres à travers des réunions et des cérémonies rituelles autour de la naissance, je dirais pour évaluer leur esprit de corps familial. Et pourquoi elles cherchent aussi un lieu bien défini pour être contenu, c'est-à-dire ce que Alberto a montré, l'habitat intérieur, c'est-à-dire la maison. Car le corps familial prend aussi appui sur le groupement des corps individuels. Et c'est dans leur réunion qu'ils se régénèrent dans des moments régressifs. Selon beaucoup d'auteurs, le fond psychique est souvent de nature groupale. À penser au noyau agglutiné, défini aussi par Melzer ou par le fond syncrétique, le cadre, Bleger, et les groupes internes aussi de René Caes. Le fond syncrétique de la psyché se construit simultanément sur le substrat pulsionnel individuel, mais aussi dans le lien intersubjectif de la mère, elle-même soutenue et contenue par l'enveloppe groupale du corps familial qui est derrière elle, ou en support. Pourtant, je voudrais faire une remarque sur la fascination que représente le corps individuel pour tout groupe, y compris pour la famille. C'est sous l'égide de l'image unitaire que le corps singulier serait attracteur de condensation pour le groupe. Ce que le sujet testera lui-même un peu plus tard dans l'expérience du stade du miroir décrit par Lacan. C'est cette figuration d'unicité présentée par l'image du corps de l'individu. C'est ce que tout groupe cherche à ressentir pour lutter contre l'angoisse d'éclatement, de fragmentation face à la multitude. Puisque les groupes manquent de corps, selon René Caes et Didier Anzieux, grâce au processus métaphoro-métonymique, ils se nourrissent du corps de leurs membres constituants pour créer une illusion de corps commun immortel. Bien que la cellule familiale génère du corps, comme tout groupe, elle n'est pas elle-même exempte d'angoisse de déperdition de sa masse vitale corporelle qui porterait atteinte à son narcissisme de base. Cela se produit dans des situations de crise ou de maladie ou même de mort d'un de ses membres, et particulièrement si c'est un enfant qui est concerné, car c'est un projet de vie, une prolongation narcissique dans le futur qui disparaît. La fonction de constituer une famille sera comprise dans la continuité, dans la mission de continuité, d'étendre le corps familial, celui qui nous a précédés et dont nous sommes issus. Alors, comment ce corps familial se transmet ? Nous avons repéré un temps très spécifique de regroupement qui me paraît être un moment princeps pour la transmission inter- et transgénérationnelle, c'est-à-dire autour de la naissance. La naissance d'un bébé mobilise psychiquement les enjeux narcissiques des parents qui projettent sur l'enfant leur moi idéal, mais aussi les deux lignées familiales qui souhaitent avoir un héritier digne de leur nom et de leur histoire. L'arrivée des enfants remet en vigueur les clauses du contrat narcissique défini par Pierrot Alagnier, à savoir que la dette de vie de l'individu face à sa famille est rendue par l'arrivée d'une progéniture. Mais la naissance, c'est aussi un signal d'un décrantage temporel et d'un changement de statut au sein du corps familial. Par exemple, la fille devient mère et la mère devient grand-mère. Elles n'auront normalement plus les mêmes fonctions. La naissance convoque aussi un regroupement familial afin de venir témoigner de la réalité d'un nouveau venu, car ce dernier vient déstabiliser l'homéostasie du groupe, car il représente malgré tout un risque de mort ou de souffrance pour la mère ou pour lui-même si l'accouchement se passe mal. Je dirais de manière plus inconsciente, le risque est représenté par la dimension d'inconnu qu'apporte la présence du bébé. Encore étrange ou étranger au groupe familial malgré 9 mois d'attente, le groupe est venu se recueillir autour de lui pour décrypter et se rassurer que le nouveau venu peut être bien des siens. Cette phase inconsciente s'étaye sur la lecture projective du corps sémaphore du bébé. En effet, chaque membre familial qui se penchera sur le berceau cherchera quelques signes de ressemblance, un air de famille, qui prouvera imaginairement une filiation avec la lignée. La place première que prend le corps apparent dans le discours narratif du groupe familial donne donc au corporel une base primordiale au développement, au processus d'enveloppement narratif fait d'identification projective qui vient favoriser l'illusion groupale et le sentiment d'élation narcissique de la famille. Ce travail d'interprétation fantasmatique et groupale vient plaquer une grille de lecture imaginaire sur le corps apparent du bébé et sur toutes ses réactions comportementales ou somatiques. Ainsi, le bébé hérite d'un passé et des attentes qui lui fixeront d'entrée de jeu une place préconçue de préjugés. C'est l'ombre parlée chez la mère définie par Pierrot Alagnier, mais c'est aussi toutes les ombres transgénérationnelles des ancêtres que constitue le corps familial qui viendront forger l'image inconsciente du corps du futur homme en devenir. Alors, je vais passer sur le stade du miroir parce que on peut arriver. Je voudrais c'est juste arriver plutôt à la notion de fonctionnalité de l'image du corps, et je passerai là aussi, pour tenir le temps, sur le point de vue topique et économique, pour m'apesantir un peu sur la dimension dynamique du corps familial, sur son aspect dynamique. La notion, donc, le registre dynamique dans lequel se trouve le corps familial peut s'envisager à travers la rythmicité de sa mouvance figurative. Je m'explique. C'est-à-dire selon les variations et les déformations de son enveloppe groupale. Nous pouvons évoquer la capacité de résilience ou de mémoire de forme de base du corps groupal lorsque les familles subissent des accidents ou des traumatismes dans la vie. Et elles sont à ce moment-là suffisamment fonctionnelles pour arriver à résister à l'hémorragie ou à l'éclatement. La résistance et la souplesse du moi-peau familial, ainsi que les capacités de sublimation de l'appareil psychique groupal, ont évité que le contenu psychique se perde à l'extérieur. D'un point de vue dynamique, nous pouvons envisager le corps familial comme une structure de liens psychiques qui serait dynamisée par une conflictualité entre des forces centrifuges et centripètes. Ainsi, l'enveloppe familiale subit des variations de configuration selon les conflits. Nous allons en donner quelques exemples autour de la perte d'homéostasie de la cellule familiale. À l'arrivée du bébé, je viens de vous en parler, mais aussi à la prise d'indépendance à l'adolescence. Je reviens rapidement sur l'arrivée du bébé. Dans ce premier cas, on l'a déjà exprimé, l'arrivée du nouveau-né dans une famille déclenche un ensemble de pulsions, je dirais, d'ordre centripète, qui investit l'objet nouveau afin que chacun puisse s'y reconnaître. Il y a une sorte de condensation qui intensifie les liens transpsychiques à travers des phénomènes d'incorporation. On peut dire que la famille fait corps en se rétractant autour d'un des siens. On se soude. Par contre, à la période de l'adolescence, la sexualité liée au changement du corps rend les échanges intrafamiliaux étouffants et sclérosants, car dangereux dans tout signe de rapprochement physique suscitant des fantasmes incestueux. En contrepoint, l'idéologie familiale veut maintenir son emprise sur la pulsionnalité du corps de l'adolescent. Fais attention, on ne sort pas, etc. Il est alors révélateur de connaître les modalités et le climat affectif des départs des adolescents de leur famille, car cela nous montre dans quelle dynamique est le corps familial. J'ai décrypté trois sortes de sorties, que j'appellerai le premier type la fidélité, deuxième type le compromis, troisième type la rupture. Premier type, la fidélité, qu'est-ce que c'est ? On peut aussi l'appeler syndrome de Tanguy. Ce serait, puisque vous l'avez déjà entendu, ce serait une prise d'indépendance relativement tardive, sans heurts et très accompagnée par les parents. C'est même eux qui installent l'adolescent dans un endroit investi par eux, quitte à le meubler. C'est une sorte de simple substitution de lieu, car souvent même les parents gardent une clé, on ne sait jamais, pour pouvoir rentrer chez leur adolescent à l'improviste. Je ne vous dis pas aussi le lien téléphonique qui reste un cordon ombilical. On peut penser que là, il y a une simple reduplication du corps familial à l'extérieur. Dans le deuxième type de sortie, celle du compromis. Il y a eu une demande énoncée par l'adolescent et relativement entendue, tout en suscitant des discussions face aux craintes parentales. Mais des compromis sont trouvés, et le jeune a la possibilité de créer lui-même son propre lieu et d'acquérir une certaine autonomie. Ce qui n'empêche pas que certains objets familiaux soient rapatriés dans le nouvel habitat. J'emmène ma chambre, j'emmène tel meuble, j'emmène telle chose. On peut dire que le corps familial reste une référence rassurante pour l'adolescent. Enfin, troisième type de sortie, la rupture. La rupture qui est souvent violente, ou rupture violente entre l'adolescent et sa famille, qui prend souvent l'aspect soit d'une fugue ou d'un arrêt des contacts après une dispute violente ou une longue incompréhension. Cette violence est souvent accompagnée d'impensables qui offrent l'image d'un corps familial porteur de zones arrachées par le disparu. Souvent, la famille vivra dans le non-dit, le secret ou la honte de l'événement. À travers ces exemples, nous concevons la tension pulsionnelle entre le corps individuel et le corps familial selon une dynamique de force centrifuge et centripède qui génère une pulsation de l'enveloppe familiale entre dilatation et rétractation. Les forces pulsionnelles centripèdes favorisent la condensation autour de la corporité commune, alors que les forces centrifuges poussent le narcissisme vers la conquête des objets extérieurs. Elles dilatent l'image du corps familial. Pour terminer, je voulais vous exposer deux approches du corps familial à travers deux outils cliniques. Pour aborder la notion d'esprit de corps de la famille qui reflète l'image inconsciente du corps familial, nous avons proposé d'utiliser le dessin libre de l'arbre généalogique construit spontanément avec la famille réunie, ce que j'ai nommé la génographie projective familiale, qui est, à mon avis, différent du génogramme. La théorisation de ce dessin groupal s'appuie sur les processus de projection et d'interfantasmatisation spécifiques au groupe familial mis dans une situation régressive et onérique de la thérapie. C'est donc sur un écran projectif que nous découvrons progressivement les configurations des liens inconscients dans l'intersubjectivité des membres, mais aussi dans la dimension diachronique des imagos transgénérationnels ancestrales. La structure formelle du dessin répond au processus primaire de déplacement et de condensation. La famille, dans l'urgence de se projeter sur la feuille blanche, se donne un corps de rêve en revisitant la galerie des portraits. C'est un travail de recréation mythopoétique. Enfin, on a parlé de l'axe diachronique. Sur un autre axe qui serait l'axe, cette fois-ci, synchronique, c'est-à-dire dans le ici et maintenant. À travers des interrelations de contenants spatiaux que va représenter le dessin d'une maison imaginaire rassemblant toute la famille. Toujours tiré d'une pratique psychothérapeutique familiale, c'est devenu une recherche pour essayer d'établir une épreuve projective typiquement groupale et spécifique à la famille. Et on manque de tests groupaux pour la famille. Nous souhaitons donc en faire une épreuve utile pour les psychologues et pour les thérapeutes dans aussi le travail de séance et de psychanalyse. Nous partons de l'hypothèse que le corps familial serait en étayage sur l'habitat réel selon ses propres failles fantasmatiques. L'investissement libidinal de l'espace familial est créé par la projection d'images du corps groupal. Ainsi, le sentiment de familiarité que l'on trouve dans la notion d'être chez soi ne peut s'établir que lorsque chacun a pu y déposer une partie fondamentale et syncrétique de son corps familial. C'est-à-dire un sentiment de continuum temporo-spatial générateur de sécurité. Notre habitat s'offre comme un objet trouvé, créé pour la projection d'un moi-peau périphérique qui délimite un dehors et un dedans, et aussi un espace intériorisé qui contient nos pensées sous forme d'objets psychéisés. Je renvoie à Serge Tisseron. Par cette fonction, j'ai pensé le dessin de la maison comme représentant l'image du corps familial à travers la notion de moi-peau et des deux feuillets de Didier-Anzieux, c'est-à-dire une fonction de parexcitation et une fonction de feuillet d'inscription. Donc, je pense que je vais terminer. C'est aussi quelque chose qui est un travail qu'on peut retrouver dans le livre qui vient de sortir, Corps en famille. Nous comprenons mieux, alors, l'habitat a une délégation de protection de notre intimité chaque fois que nous le quittons. Nous comprenons mieux alors pourquoi le cambriolage est souvent vécu comme un viol psychique. Pour terminer, juste ma conclusion qui tient en quatre lignes. Par la mise en perspective d'une dimension intersubjective et générationnelle, la notion de corps familial comme lieu d'expression nous permet de penser à une approche groupale des maladies psychosomatiques. En parallèle aux maladies héréditaires, il y aurait en effet peut-être des maladies à héritage. Les modalités de propagation et de transmission seraient à élaborer. Mais l'on peut déjà s'appuyer sur les mécanismes, par exemple, d'incorporation, de mimétisme, de projection et d'identification, qui peuvent nous donner déjà des éléments pour une piste de la compréhension transpsychique de la maladie. Maladie qui, paradoxalement, serait aussi quand même une garantie d'identité et de filiation pour les individus. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Patrice, pour ce très brillant exposé où on ressent toutes les résonances avec ce qu'on a entendu ce matin et aussi tout ce que tu nous permets d'entendre de cet approfondissement dans notre corpus, notre corps théorique psychanalytique, justement, d'avoir balayé si intelligemment toutes ces notions extrêmement complexes. On peut retenir deux axes et ensuite Aïdé enrichira la discussion. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement toutes ces capacités, ces fonctions, peut-être auxquelles il faut être très attentif, à la fois de contenance et d'inscription, ce que tu as repris à la fin, ces enveloppes finalement de la famille, et aussi cette dialectique peut-être sous-jacente que tu nous as proposée, cette autre dialectique entre le corps individuel et le corps groupal, quelque chose comme ça. C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas si tu serais d'accord, le corps, on pourrait dire, plus narcissique à chacun, le corps identitaire, à la famille ou à soi, et le corps plus, on pourrait dire, sexualisé, qui est la source de l'intersubjectivité fantasmatique et qui est effectivement tout ce que peut-être tu nous proposes d'être attentif à ce processus érotisable, mais dans la pensée, c'est-à-dire à toutes ces fonctions de transformation. Je passe la parole à Aïdé pour commenter ce brillant exposé.
Je sais pas si c'est un peu loin, mon. Il n'y a pas l'autre micro, parce que je suis un peu. Bon, je remercie beaucoup à Patrice Cunet de l'exposé qu'il vient de faire, parce qu'il est très riche, parce qu'il nous permet de faire beaucoup de liens avec tous les concepts. Psychanalytique, il a renvoyé à beaucoup d'auteurs, donc ça nous permet de penser en lisant ton travail. Je me suis mise à penser à beaucoup de choses, donc je te remercie pour cette capacité d'induire la pensée chez nous. Et ce qui m'est resté un peu comme chose principale de ton travail, c'est qu'en fait le concept de corps familial est un concept un peu interface. C'est un concept qui permet et qui induit une espèce d'étayage multiple. L'étayage multiple est enrichi par toutes les apports que tu as faits. Et je voulais me référer à René Caes qui a une phrase qui m'a paru très, très éclairante. Alors il dit: fondée par l'indistinction primitive du corps maternel, du corps groupal et du groupe familial, corps groupaux étayés les uns sur les autres, emboîtés les uns dans les autres, sans que les relations de contenance soient fixées dans un ordre définitif, c'est-à-dire que l'enveloppe se retourne avec ses contenus, transformables à leur tour en contenant. C'est ça que je voulais dire par cette espèce de étayage multiple. Voilà. C'est pourquoi l'image du corps comme groupe se retourne dans l'image du groupe comme corps. Donc ça me paraît intéressant comme mode de pensée de ce concept. Et alors, je passe à te poser des questions pour ne pas trop retarder notre temps groupal. Alors, je voulais peut-être que tu éclaires un peu plus ce que tu as dit dans une phrase qui m'a paru un peu compliquée. L'apparition d'un moi peau qui recouvre le noyau syncrétique de la cellule familiale afin que les projections psychiques d'origine extraterritoriale à chaque sujet puissent venir s'y déposer et s'inscrire. Je trouve que peut-être que tu peux dire quelque chose de plus clair là-dessus. Ça, c'est ma première question. Je te pose les questions. Allez, et oui, tu réponds après. également, les proto-pensées de psyché originaire du groupe familial, de Olagnec. Troisième question, est-ce que tu peux relier un peu plus les notions de sensation et représentation, c'est-à-dire en lien avec les éprouvés, la question du sensoriel, du perceptif, du corporel, qui avant d'être mental est personnel et difficilement partageable et que donne forme aux premières expériences somatiques. Quel est le lien que tu peux faire entre ceci et le corps familial? Et peut-être une dernière question. Le corps familial est transmis transgénérationnellement, mais est porté par ses membres de manière différente. Le ressenti du corps familial est développé différemment par les membres. Exemple, la maladie dont tu as déjà parlé, l'handicap, famille à l'étranger, famille séparée. Quelles sont les conséquences pour les familles recomposées? Ça, c'est une question. Et aussi, dans notre pratique, quelles sont les conséquences dans la pratique clinique? À qui inclut-on dans la consultation, par exemple? Hein? Qui sont les personnes qu'on inclut dans la... Dans la... Et toute dernière, pardon, j'avais une autre question. Dans la clinique, parce que ça m'intéressait de voir cet aspect-là, quels sont les sortes d'indicateurs dans le contre-transfert? Est-ce qu'il y a un contre-transfert qui est d'un ordre qu'on peut imaginer d'un ordre plus sensoriel, émotionnel, physique, etc. Voilà, ça c'est mes questions.
D'accord, oui. Alors je vais reprendre par la dernière et puis on essaiera de remonter à l'origine. La dernière, je crois que ça me fait penser tout de suite, vous avez peut-être eu cette expérience clinique-là, à des familles qui, quand elles arrivent, vous donnent une sorte d'impression, soit une impression massive, soit au contraire une impression des fois de légèreté, on dirait qu'ils ne sont pas là, ou alors ils sont compacts, serrés les uns contre les autres, les sièges collés les uns contre les autres, au contraire très répandus dans le bureau, souvent l'enfant étant sous vos pieds, ou autour des rideaux, en ayant peur qu'ils arrachent tout. Je crois qu'au niveau de la dimension de l'effet contre-transférentiel, cette histoire de corps familial qui est de l'ordre... Alors, et là, ça rejoint la théorie, c'est vrai que c'est quelque chose du peu pensable, mais plutôt du ressenti. Et il est difficile de passer du ressenti à en penser quelque chose. Ça nous renvoie à la sensation que vous avez des familles qui nous envahissent et nous submergent et on ne sait pas les délimiter, on ne sait pas leur donner une forme, on a du mal à leur donner une forme. Et je crois que le premier travail psychique de contenance, parce que là on revient dans le travail psychique de contenance basique. Du thérapeute, basique, hein, oui, comme tu dis, qui est de contenir ces familles qui se répandent ou qui vous submergent. En tout cas, dans le fonctionnement de contenance, ça veut dire de pouvoir définir une limite. Et lorsqu'on arrive à donner une forme à quelque chose, on peut commencer peut-être à le penser, à se le représenter et donc à le penser. Et je crois que c'est peut-être une des choses cliniques que l'on ressent le plus quand on reçoit des familles, parce que les familles, ce n'est pas des fois que trois personnes, ça peut être quatre, cinq, six des fois. Moi, j'ai vu parfois mon bureau complètement envahi de chaises. alors qu'il n'est pas très grand, on a le tout premier travail qui est de donner une forme à la famille et de pouvoir réussir à se la représenter pour pouvoir commencer ensuite à la penser. Et puisque au niveau théorique, je faisais appel à la théorie de Pierre Ollagnier, vous savez que Pierre Ollagnier, pour elle, il y a trois registres. Il y a l'originaire, le primaire et le secondaire. L'originaire, ce sont de l'ordre des proto-pensées, c'est-à-dire quelque chose de l'émotion ressentie, mais pas représentable. C'est du pur ressenti. Ce qu'on va retrouver chez Winnicott quand il parle des vécus non vécus aussi. Pour pouvoir passer, on est dans la sensation, donc. On est dans la sensation et notre corps réagit aussi à la sensation, dans le sens où on peut être aussi avoir une sensation d'étouffement, d'oppression ou de chaleur ou de froid, ça dépend comment notre corps réagit aussi à cela. Et c'est parfois, vous savez que les familles, c'est quand même éprouvant. Quand on en sort au bout d'une heure, une heure et demie, on est bien fatigué. Physiquement, j'entends, physiquement, même si mentalement, on peut là aussi l'être. Donc, il y a ce premier registre originaire qui est de l'ordre, vous voyez, de l'émotion, les proto-pensées, c'est de l'émotion-sensation. Voilà. Pour pouvoir passer au registre primaire qui est de l'ordre, non plus de la sensation, mais du sensuel, où là, il y a du fantasme, le sensuel, on peut faire apparaître de l'imaginaire. Il peut y avoir à ce moment-là de l'affect. Et donc, on rentre dans une autre catégorie. Et c'est cette catégorie qui nous permet ensuite d'aller du côté du sens, c'est-à-dire de la parole. Et là, on peut pouvoir penser quelque chose et dire quelque chose aux gens. Bon, c'est en remonte. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je remonte de la clinique pour remonter vers la théorie.
Et par rapport à la relation entre corps familial ressenti individuel.
Mais c'est ce qui me dit. Alors, oui, ce ressenti individuel, le ressenti du corps familial, vous me disiez au début, comment il peut avoir une peau. Mais je renvoie en yeux qui dit que quand on est dans l'illusion groupale, on a une première sensation de tout. De tout, c'est-à-dire une contenance, c'est-à-dire une enveloppe. Et à partir du moment où on peut commencer à avoir une enveloppe, on peut commencer à avoir une peau qui délimite le dedans et le dehors. Et qu'on arrive à avoir une sécurité, puisqu'on a une intériorité cette fois-ci.
Oui, ce sont j'aurais une autre question à déposer, qui m'est revenue avec l'histoire des os de M. Birman. Parce qu'en fait, à un autre moment, tu parles de l'arbre généalogique comme une ossature, comme une espèce de squelette. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus?
Je crois que si vous avez eu cette pratique de demander un arbre généalogique, un dessin d'arbre généalogique aux familles, à l'origine, souvent, ça ressemble à un arbre en hiver, c'est-à-dire très dépouillé, avec des branches, et il y a deux, trois noms accrochés comme ça au bout des branches. Ça fait penser à un squelette. Et au fur et à mesure que la thérapie avance et qu'on peut remplir... au long des séances, on renvoie la famille à l'arbre qu'ils ont fait et ils peuvent remettre des noms qu'ils avaient oubliés, par exemple. On voit petit à petit cet arbre se fournir fleurir. En tout cas, densifier les branches avec du contenu cette fois-ci et non plus du formel au début. Et c'est pour ça que je propose une lecture de l'arbre généalogique de deux façons, d'un point de vue formel et d'un point de vue contenu. Un peu comme les dessins qui se font avec contenu manifeste et contenu latent.
Merci beaucoup. On va inviter la salle peut-être à poser ses questions. Et bien sûr, chacun à cette table peut y répondre, soit M. Birman, M. Pellet, mais aussi tous les participants ici réunis. Alors, je pense qu'effectivement, dans vos questions, peut-être que, enfin, pour lancer comme ça un peu un regroupement dans toutes ces richesses de pensées que nous avons entendues, peut-être que... quelque chose d'important ce matin qui a été travaillé avec beaucoup de brio de nos intervenants, c'est peut-être cette question de la transformation de cet excès de corps hein, dans toute cette dimension d'excitation, de co-sensualité auquel nous, c'est notre travail auquel on s'attelle, hein, justement de contenir, hein, pour que ces capacités de contenance et d'ossature, moi j'aime beaucoup reprendre effectivement comme... plusieurs personnes ici à la table qui ont relancé les questions, cette question d'ossature, hein, à la fois psychique, organisationnelle, d'un espèce d'ordre interne à la famille avec tous les interdits, mais aussi cette ossature que la famille doit être aussi une ossature pour une ouverture et qu'une dynamique puisse à la fois interne et extérieure dans la créativité de la famille pour que ses membres puissent s'inscrire comme citoyens d'une société qu'on espère vivante. Donc je crois qu'effectivement cet excès de corps que nous on a à traiter, hein, dans toutes ces dimensions pathologiques, ces maladies de peau, tout ce que dans les ateliers cet après-midi vous retrouverez au niveau de ces pathologies et de ces résonances entre le corps familial et les corps individuels, bien se souvenir effectivement de ces capacités d'inscription, mais aussi de transformation, de contenance, de mitopoïèse. Donc vous êtes invité à poser vos questions le plus spontanément possible, peut-être, à nos intervenants. Qui veut prendre la parole?
C'est qui peut prendre le micro et le faire tourner? Ah, il est là-bas, regardez, là-bas.
Oui, bonjour. Cette question, c'est pour Monsieur Birman, sur les premiers-nés, la mort des premiers-nés, et la référence à un texte hindou. Et je voulais savoir si on pouvait savoir lequel.
Écoutez, j'ai vu ça une fois, tout simplement dans un. J'ai jamais eu le loisir de chercher la source, mais je l'ai vu dans une version populaire du livre de Krishna.
Merci.
Mais peut-être que vous voulez dire votre pensée par rapport à ce qui a résonné en vous.
Non, j'ai trouvé que c'était intéressant, oui, d'avoir une approche interculturelle. Et voir un peu dans d'autres traditions comment ils traitent justement ces grandes questions de transmission transgénérationnelle et comment on approche à travers l'hindouisme par exemple ou d'autres traditions. Voilà, ça m'avait bien intéressé.
Mais sûrement que votre question...
Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas développé le thème, mais que c'est présenté comme le terme ultime de cette autodestruction de l'Empire, hein, puisque c'est la dixième plaie par rapport à toute une étape d'effondrement de plus en plus, comme si finalement c'était l'apothéose de l'effondrement sur soi-même de l'oppression. Et inversement, ça veut dire que le fondement de toute construction sociale est précisément dans ce que symbolise cette notion de fils aîné.
Le fils aîné, c'est un peu comme Moïse qui doit emmener son peuple à la Renaissance.
Oui, enfin, c'est très riche, oui. C'est le rôle des aînés, symboliquement.
Moi, je pensais à Abraham quand il doit tuer son premier-né, justement. Et ça parle d'alliance aussi. Et puis, c'est un agneau aussi, ou je crois que c'est un agneau qui vient prendre la place du sacrifice. Et voilà, ça, je faisais un lien avec ça aussi. Quoi.
Oui, mais bien sûr, la sortie d'Égypte est en référence au non-sacrifice d'Abraham.
C'est un bélier.
C'est la correspondance entre la Genèse et les origines, fondamentalement.
Oui, on voit toute l'implication et la résonance, hein, dans cette interculturalité à travers les histoires et les mythes des peuples, à travers les littératures, de ce qu'on dit qu'il y a des rattachements extrêmement importants dans ce qui nous incombe à réfléchir.
Si vous voulez un élément de plus, en travaillant, j'ai découvert aussi que, bien sûr, le thème était repris dans le christianisme, hein, avec le passage... avec le passage de Jean qui, reprend cette idée, peut-être à partir d'un détail soit inventé, soit historique, que lorsque il s'agit d'achever les crucifiés, parce que c'est la population demande à ce que pendant le repos sabbatique, qu'il n'y ait pas des crucifiés, donc il faut le repos, c'est aussi le repos des crucifiés. Hein. Donc les soldats romains brisent les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent plus vite. Et quand ils arrivent à Jésus, dans le récit de l'évangile de Jean, il est déjà mort. Et donc, il ne lui brise pas les jambes. Et à ce moment-là, Jean note ça et il ajoute, vous voyez, c'est la réalisation du verset biblique, tu ne briseras pas l'os de l'agneau. Donc c'est une reprise sur un autre plan peut-être, mais il y a un lien. Hein, c'est que l'agneau Pascal, lui aussi, il n'a pas été maudit.
Je voulais faire une remarque qui lie Régine d'ailleurs... Weintrater.
Dites votre nom.
Régine Weintrater, qui lie ce que M. Birman a dit de la Bible et ce que M. Quinet a dit de ce moment autour de la naissance. Dans le judaïsme, par exemple, il y a le moment de la nomination et il y a des règles bien précises. Il y a une cérémonie de nomination pour une fille et le nom est donné pour le garçon au moment de la circoncision. Donc il y a en général 8 jours. Mais la nomination, c'est aussi déjà la symbolisation et l'inscription du corps. C'est-à-dire, on vient autour du bébé, effectivement, reconnaître en quoi on peut, comme vous avez dit, inclure cet étranger et reconnaître les ressemblances, il ressemble à un tel, etc. Mais au niveau symbolique, déjà, dans ces cérémonies, il y a cette cérémonie de la nomination. Et je pensais, par exemple... qu'elle est différente, par exemple, chez les juifs ashkénazes et chez les juifs séfarades, puisque chez les séfarades, on peut donner le nom du père, on peut reprendre les mêmes noms, et chez les ashkénazes, on ne peut donner que le nom d'une personne décédée. On n'a pas le droit de rattacher immédiatement, on ne peut pas faire, par exemple, John Kennedy Jr. et John Kennedy, comme chez les anglo-saxons, où on a des juniors et des seniors, c'est parfaitement interdit. Alors bon, après la Shoah, et j'en parlerai moi dans l'atelier cet après-midi, évidemment, on s'est retrouvé avec des gens, il y avait pléthore d'ancêtres morts, et la question était, et il y a souvent des dissensions dans la famille, moi j'ai entendu des choses très graves autour de, et des ruptures familiales, autour de quel prénom on va donner. Est-ce que c'est celui de la grand-mère, ou de pour une fille maternelle ou paternelle, avec des choses, des déchirements qui commencent autour de la nomination, c'est-à-dire de ce rattachement symbolique à la filiation et de la façon dont ça se fait. Je pense que là, du point de vue interculturel, c'est très intéressant. Moi, quand j'entends les anglo-saxons qui, eux, au contraire, ça s'accordent souvent pour donner le même prénom au fils et au père en les différenciant simplement par les junior et senior, ce qui est parfaitement, par exemple, interdit chez les juifs ashkénazes, ce qui est plus permis chez les juifs séfarades, mais je n'ai pas étudié pourquoi c'est différent. Mais chez les ashkénazes, il y a un interdit et au contraire, une recherche de donner le nom d'un des parents, du premier parent du même sexe décédé. C'est-à-dire, si c'est un fils, on va rechercher. Mais comme il y a deux familles, en général, il y a deux descendances, eh bien, ça donne lieu souvent à des choses très chargées, qui commencent. Et j'entends des familles qui disent, oh là 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 là, le problème, ça va être quel prénom on va donner, les jeunes parents, quel prénom on va donner si ça va être, si les deux grands-mères sont décédées. Et dans les générations d'après la Shoah, étant donné qu'en général, souvent, toute la génération grand-parentale était décédée, j'ai entendu des histoires familiales extrêmement dures autour de cette nomination et de ces prénoms. Voilà, c'était mon
association. Merci de cette question, parce qu'effectivement, vous relancez toute cette dialectique entre l'intérieur de la famille et son principe de socialisation de cette extériorité, où se relancent, bien sûr, toutes les rivalités et ce travail psychique à l'intérieur des familles, lorsque cette reconnaissance touche aussi un enfant pour la société, dans le fond, dans la transmission à la fois des ancêtres, mais aussi pour avoir cette capacité de le désigner dans une transmission, pour sortir aussi des morts. D'autres questions ?
Oui, je veux bien. Je vais faire une intervention qui est peut-être complémentaire par rapport à l'intervention précédente, enfin une petite remarque en fait.
Nommez-vous, s'il vous plaît.
Oui, je suis là.
Mais vous êtes qui ?
je suis sage-femme, et donc je m'appelle...
Vous n'avez pas... Ah bon.
Je m'appelle Chantal Birman. Et voilà, donc je vais donc, je veux juste dire que c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à M. Quinet, que quand on parle de naissance, on oublie tout le temps l'événement qui précède la naissance, qui est l'accouchement. Et l'accouchement, dans le corps familial, s'inscrit plutôt du côté du corps des femmes. Donc il y aurait donc un double événement, qui serait un événement qui s'inscrirait du côté des lignées féminines, c'est-à-dire il y aurait peut-être quelque chose au niveau du démarrage de la vie qui correspondrait à des symboliques qui soient plutôt des symboliques de genre. L'intervention d'avant de la dame parlait de nom, d'inscription du nom, qui me semble plutôt s'inscrire du côté du masculin. Et en même temps, l'événement accouchement, qui est à la fois un événement d'ouverture à la vie, puisque c'est une naissance, bien entendu, mais qui est aussi une disparition à sa génération et qui est donc, quelque part, une inscription dans la mort. Et donc, ce double événement-là est plutôt un événement qui s'inscrit dans l'obscurité et qui n'est jamais parlé. Donc, c'était juste ça que je voulais dire.
Oui. Je peux peut-être essayer de reprendre, vous me donnez l'occasion de reprendre ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc, j'en profite. Oui, l'accouchement, moi, il me semble que le moment fort de l'accouchement, c'est l'apparition du nouveau-né, donc la sortie du corps de la mère. Ce qui me paraît être important, c'est qu'est-ce qu'on regarde tout au début, c'est il est bien, et s'il est bien, il a tout, en particulier si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ça joue quand même beaucoup, puisque ça pose, je dirais, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on va déposer sur lui si c'est un garçon, qu'est-ce qu'on va déposer sur lui si c'est une fille. Et ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure par rapport au stade du miroir de la famille, c'est-à-dire que la famille vient se mirer, en quelque sorte, sur le corps apparent du bébé, où chacun va y chercher, vous savez, le décryptage du « Ah, il a le nez des Dupont, il a les yeux des X, il a les mains du grand-père ». Il y a tout un décryptage du corps apparent qui a besoin de permettre une projection d'affiliation. Et pour ça, je disais que autour de la naissance, il y a d'abord un phénomène d'affiliation, comme René Caes disait que l'affiliation est basée sur les failles de la filiation. Eh bien, il me semble qu'à la naissance, il y a d'abord une affiliation du corps au corps familial, c'est-à-dire est-ce qu'il peut rentrer chez nous, est-ce qu'il peut être des nôtres, est-ce qu'on peut l'accepter. Il y a déjà cela avant de reconnaître la filiation de l'enfant. Et juste pour qu'on est un petit peu dans pas dans le transculturel, mais pour remonter au niveau de l'anthropologie, je voudrais vous signaler qu'il y a à peu près un siècle, il y avait encore ce qu'on appelait des rites ordaliques autour de la naissance, où on appelait ça aussi jugement de Dieu. On plaçait un enfant sur de la paille entouré de 4 bougies et on regardait si la paille ne prenait pas feu. Il était sauvé du feu. Et après, on allait le plonger 3 fois dans l'eau glacée de la rivière pour voir s'il survivait. Et chez les Esquimaux, il y a encore ça. Il y avait encore cela, c'est-à-dire que le bébé était offert à tout petit peu en dehors pour voir si la mère ours ne venait pas le récupérer. Ces rites ordaliques, à mon avis, ont disparu, mais servaient à savoir si le corps familial pouvait s'appuyer réellement et investir réellement le corps individuel en tant que suffisamment sûr, suffisamment solide pour survivre. Et donc, à ce moment-là, on pouvait peut-être en faire une filiation.
On voit bien tous les fantasmes inconscients qui sont à l'origine, effectivement, du corps familial, que ce soit l'accouchement, effectivement, des choses tenues secrètes ou refoulées du corps de la mère, hein, de tout cet originaire, et peut-être au niveau social, effectivement, de cette ambivalence radicale entre les humains, hein, cette tension entre toutes ces pulsions destructrices, meurtrières, et ces envies de manger l'autre, de le posséder, que ce soit sexuellement ou érotiquement. D'autres questions, et ensuite on doit faire une pause, et peut-être que ça rebondira, on ne pourra pas. Oui. Allez-y.
Ma question s'adresse à M. Birman. Alors, que penser, contrairement aux Hébreux qui, effectivement, ne laissent pas ne sortir de chair de la maison, des peuples comme les Carthaginois qui, effectivement, sacrifient leur premier-né à la déesse Tanrit, et donc systématiquement détruisent en quelque sorte effectivement support du narcissisme familial qui est le premier-né, sans être effectivement sûr d'avoir effectivement une descendance après cette première naissance. Que peut-on penser de ces papes? D'ailleurs, je ferai un petit parallèle transculturel, à savoir les Carthaginois, ce sont les Phéniciens, donc les Phéniciens, ce sont les plus proches effectivement peuples des Hébreux, qui effectivement sont maintenant, on peut dire que les Palestiniens envoient leurs enfants dans l'intifada contre effectivement l'armée israélienne. C'est une question.
Oui. Ça marche? Oui. Oui, ça marche. Oui, là, ton raccourci est un petit peu saisissant. Hein, bien sûr, bon. Je comprends bien. Faut pas amalgamer les. Hein. Par contre, il est certain qu'il y a une filiation entre les Carthaginois et les Phéniciens, d'un côté, et entre les Phéniciens et les Hébreux. Ça, c'est historique. Hein. Bon. Par contre, il faut faire attention, hein, les Palestiniens. Palestiniens, d'abord, ça vient des. Le mot vient des Philistins, hein, qui était un peuple grec, venu de Crète, qui a disparu bien avant l'époque chrétienne. Hein, et c'est simplement Palestine par rapport au terme Palestine, qui était le terme que les Romains avaient imposé à la Judée pour la déjudaïser. Hein, le terme Palestine, donc ils avaient repris des Philistins qui avaient déjà disparu à l'époque des Romains. Hein, bon, ça c'est pour éviter les confusions. Par contre, ce que vous dites est évidemment tout à fait central, hein, puisque on peut dire que si la Bible représente une mutation fondamentale dans l'histoire des religions, et, ça on le voit quand on compare la proximité et la rupture avec les textes religieux phéniciens, justement, hein, tout le travail qui a été fait sur le Ras Shamra, et très peu de temps avant, quelques siècles avant. Hein, bon. Aux alentours de, comme ça, du XIIe siècle, hein, on a cette rupture. Et la rupture, en fait, l'une des aspects les plus tranchants de la rupture, c'est sur cette question précisément. Hein, parce que le sacrifice humain, l'interdit du sacrifice humain, qui est au centre du centre du récit biblique, prend fondamentalement la forme que vous avez rappelée, c'est-à-dire le sacrifice de l'enfant. Hein. C'est dans le Lévitique, n'est-ce pas? Tu ne sacrifieras pas ton enfant à Moloch. Hein, voilà. Alors qu'effectivement, comme vous le rappelez, c'était une pratique très développée chez les Carthaginois et dans bien d'autres cultures. Bon. Donc évidemment, ça tourne autour de cette fameuse question de ce que finalement l'idée étant que la mutation, c'est qu'il n'y a pas besoin, hein, et il n'y a pas besoin pour assurer la pureté, ou comme vous le disiez peut-être, quand vous avez, c'est très intéressant, quand vous appelez le mot narcissisme, il n'y a pas besoin pour dépasser le narcissisme, voyez, hein, de mettre à mort, puisqu'en fait, mettre à mort son enfant, l'offrir à l'idole, c'est une manière de s'humilier et de demander au Dieu d'avoir le droit d'exister. Et c'est tout le problème du sacrifice. Et donc, l'interdit du sacrifice humain, c'est l'idée que ça, que cet archaïsme doit être dépassé, que ça ne passe pas par la mort d'un être humain, que la vie humaine est sacrée, et d'où le sacrifice animal.
Et pourtant, que de sacrifice dans
alors,
cette...
Alors, par contre, effectivement, vous avez raison de souligner que la pratique du sacrifice humain, et notamment des enfants, s'est perpétrée, hein, parce qu'on a une conception souvent un peu naïve du progrès historique, et que ça continue. Alors effectivement, ça continue quand les gens envoient leurs enfants se faire tuer. Vous voyez, on n'a jamais vu les dirigeants d'Al-Qaïda se tuer eux-mêmes. Hein, ils envoient des jeunes. Hein, bon, ou les Iraniens qui envoient les enfants sur les champs de mines. Hein, bon, etc. Mais ça, c'est des formes spectaculaires, mais dans nos sociétés aussi. Hein, il y a des problèmes avec ça. J'ai souvent développé ce thème. Il y a beaucoup de livres sur le récemment. Hein, parce qu'il y a une manière aussi par exemple, peut-être des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas tout de suite, comme la sécurité routière. Hein, vous voyez, que finalement, de manière inconsciente. La société se débrouille pour qu'un certain nombre de jeunes se tuent sur les routes.
Mais ça, il ne faut pas le dire. Ça fait partie des alliances inconscientes groupales, peut-être, effectivement, non, vous avez raison. Excusez-moi, il faut le dire pour en sortir, mais aussi il y a la nécessité de ces alliances inconscientes, peut-être qu'il faut savoir penser pour les psychiser, voilà. Hein, de cette grande pulsion de destruction. Je vous invite à relire Malaise dans la civilisation de Freud et Totems et tabous. On est en plein dedans. On n'a plus que deux petites questions courtes. En tout cas pour cette première partie de la matinée avant la pause. Donc,
l'idée étant qu'il faut dédramatiser, qu'on n'a pas besoin de tuer ses enfants. Voilà, c'est ça, hein, pour être un être humain. Hein, enfin, c'est ça,
les philosophes sont gentils.
Oui. Oui, je m'appelle...
Deux petites questions courtes et puis les questions rebondiront en fin de matinée et vous pourrez reposer vos questions.
Oui, donc je m'appelle Caroline Berck. J'ai trouvé très intéressant l'exposé philosophique. Tout au long de cet exposé, je suis arrivée à l'idée, alors je voudrais avoir votre avis, c'est-à-dire que cette métaphore, on va dire ce passage au moment donné où on consomme l'agneau, et surtout, en fait, j'avais complètement oublié cette donnée, qu'on ne doit pas briser les os. Voilà. Et je me suis demandé si justement ça ne pouvait pas être pour les familles qui sont dites pathologiques, en fait, le patient symptôme, c'est-à-dire à partir du moment où une famille où des os sont brisés, et en même temps qui permet peut-être à la famille d'exister. Enfin bon, voilà, ça c'est une question que j'avais à vous poser. Et s'il y avait eu des illustrations bibliques sur l'expression de ces familles où justement les os sont brisés. Enfin, j'ai trouvé que cette métaphore m'a donné matière à penser.
Je réponds très vite. Hein, oui. Bon, très vite. Madame, là aussi, vous mettez le doigt sur l'essentiel, puisque le seul livre dans ma vie où j'ai eu le temps de participer, c'était un livre sur l'exégèse du chapitre 4 de la Genèse. C'est-à-dire que si la Bible commence par un meurtre, pour se fonder sur l'interdit du meurtre, en même temps, ce meurtrier, dans l'économie du texte et son interprétation traditionnelle, est le fils d'une mère incestueuse.
Et pourquoi Shakespeare? Alors, une dernière question.
Oui, donc
Pierre
je...
Benoît.
Il y avait un monsieur là-haut.
Il y avait un monsieur là-haut.
La ceste est plus fondamentale que le meurtre.
Ouais, bah, les deux sont peut-être.
Bon, je vais juste rebondir là sur à la fois la question de la mort des premiers-nés, qui peut-être, et c'est une question que je vous pose, peut-être analysé pas uniquement comme la mort d'un devenir, comme ça, à travers les enfants, mais comme une véritable attaque du lien de filiation. Et que, de ce point de vue-là, on peut entendre, et je trouve que c'est assez intéressant dans la continuité de cette matinée, le rapport entre métonymique entre les différents niveaux du corps, entre ces corps réels, imaginaires et comme ça, et la dimension du corps symbolique. Et de voir comment est-ce que, à travers l'histoire, et y compris l'histoire contemporaine, on peut avoir des attaques du corps à partir d'un corps réel comme véritable attaque d'un corps symbolique. Hein. Et je pense justement à des formes de brisure des ossatures, comme forme d'attaque du corps communautaire. Hein, on a parlé de corps familial, et je pense qu'effectivement, on entend bien à travers ce que vous dites toute la dimension du corps communautaire, et en particulier sur ce qui m'a beaucoup frappé, touché, vous allez le comprendre, lorsque je me retrouvais au Rwanda, l'époque difficile, et qu'une des formes de destruction était de couper et de casser les corps, pas de les tuer, bien sûr les tuer, mais au-delà de les tuer physiquement, de les couper pour casser les corps, pour briser les os. Hein, et briser les os des longs Tutsis était en même temps une manière d'exprimer à travers toute une haine communautaire, une véritable attaque du lien de filiation et une sociale. Attaque destructrice de l'ensemble du corps communautaire.
Et de ce point de vue-là, ça me semble extrêmement important de rapprocher ça comme une véritable attaque symbolicide. C'est-à-dire que les corps non seulement étaient attaqués, coupés pour détruire cette espèce de pseudo-fierté des Tutsis à travers...
Merci Pierre.
Hein, oui. Voilà. Et en même temps, je finis, en même temps, c'est intéressant, de voir que c'est une attaque contre le rituel de la mort. C'est-à-dire que la mort elle-même fait que ces corps-là étaient mis, je suis désolé de le dire comme ça, étaient mis dans des latrines. C'est-à-dire que justement, c'est pour carrément avoir une attaque anti-symbolique à travers la brisure des os.
D'où l'importance de la machette.
Oui.
Merci.
La machette apportée en grand nombre de films.
Excusez-moi de vous interrompre, mais merci de cette évocation, parce qu'effectivement, là, même la mort est encore une humanisation, hein, alors que ce que tu viens de rappeler, on file dans la barbarie, et effectivement, là, c'est le processus même de la civilisation et d'humanisation qui est en danger. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. On voulait quand même donner la parole, mais alors vraiment une demi-minute au monsieur du fond de la salle qui demande depuis longtemps, et ensuite vous reposerez vos questions à la fin de la matinée. Celui qui se sent concerné peut se lever. Oui, soyez rapide.
Oui, bonjour, Cor. Je suis psychiatre d'enfants dans le service public.
Monsieur ?
Je m'appelle Cor. Oui, juste.
On ne l'a pas envoyé exprès. Hein.
Non, voilà. Ma question s'adressera alors peut-être plutôt aux philosophes, mais pourquoi ? Parce que
plus fort, on n'entend pas bien.
Oui, du côté des thérapeutes, la famille a un effet d'évidence, puisque c'est celle qui rentre dans le bureau, hein, grosso modo. Alors, on l'y a invité, elle s'est invitée, il y a des calages à faire, il y a peut-être cette notion d'ensemble mou que j'avais entendu évoquer ici il y a quelques années, comme représentant des ensembles dont on peut être à la fois dans un lien d'appartenance et dans un lien de non-appartenance, ce qui est presque paradoxal. Bon, en gros, si vous voulez, on n'a pas de problème d'emblée pour définir ce qu'est une famille, puisque c'est ce qui rentre dans notre bureau. Au-delà de ça, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans l'actualité, si vous voulez, que nous vivons, enfin dans le temps que nous vivons, je me posais la question du corrélat emblématique qui signe une famille, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'une famille, comment se transmet-elle ? Y a-t-il des liens de transmission ? Je ne crois pas qu'il y ait des liens d'engendrement, justement. Bon, une famille, femme, female, enfin, ça a à voir sans doute avec les femmes, et elles occupent une position qui a été... signifié tout à l'heure, les hommes aussi, hein, la place du père, je n'irai pas jusqu'à parler du parrain de Toto Riina ou enfin, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que les hommes y ont, les couples évidemment sont aussi des garants de la famille, mais en vous écoutant je me demandais quand même si la seule chose qui tienne un petit peu, c'était pas une question de lieu, hein. Alors la maison, mais l'importance des exils, etc. Est-ce que, si vous voulez, si on cherche, si vous voulez, un accrochage à la notion de famille qui la signifie dans une actualité, étant donné que les notions culturelles de transmission, etc., ne tiennent plus trop le coup, que les couples se défont, qu'il y a des familles reconstituées, mais qu'est-ce qui fait qui tient là-dedans ? Le lieu, peut-être, est quelque chose donc qui n'a pas lieu, qui n'a pas trait aux personnes.
Patrick, excusez-moi, peut-être vous répondre en 3 secondes, parce qu'effectivement, c'est toutes ces questions de transmission. Patrick, et ensuite, on se reverra à midi. Oui, oui, Patrice.
Midi 5 au plus tard.
Voilà. Juste pour... Je pense que la question des familles recomposées est sûrement très importante, puisque... comment, dans une famille recomposée, on reconstitue aussi un corps familial qui soit spécifique à la nouvelle famille qu'on a construite, alors qu'il y a déjà d'autres corps familiaux qui sont, je dirais, précédents. Et ça, c'est une vraie question dans les nouvelles thérapies avec des familles recomposées. Est-ce qu'on doit accepter qui ? Et ça, c'est un vrai débat.
Bien, ben, allez vous reposer les méninges après cette matinée très riche. On vous retrouve à midi 5, pas plus tard.